Vous entendez la musique du groupe lausannois BBFC, les deux B pour Jean-François Bovard et Daniel Bourquin. F, c'est Léon Francioli, C, c'est Olivier Clerc, quatre musiciens qui ont fortement, eux aussi, tapé sur le mythe de la Suisse. Je rêvais de vous faire écouter leur hymne national inventé pour le 700e, mais je ne l'ai pas trouvé, ce sera une autre fois. Alors, nous poursuivons, nous vous emmenons toujours avec Anne Grossenbacher dans les différentes pièces de l'exposition. Et tout à l'heure, Anne, tu évoquais, par exemple, la difficulté de lecture, en guillemets, de cette exposition, à cause du propos, surtout, qui nous propose Bernard Crétin. Nous le rappelons, qui a pour titre « La beauté du reste », donc « Confession d'un conservateur de musée » sur ce que notre société, notre civilisation plutôt, fait de ces restes montagnards, campagnards et parfois urbains. Mais il y a une chose qui m'a frappée en tout cas, c'est que par exemple dans cette exposition, et en particulier dans la pièce qui suit celle dont nous venons de parler, il y a beaucoup de textes. Dans cette petite salle, il y a justement, elle est toute petite, hein, avec une magnifique faux au milieu, un peu comme si elle était sur une pierre tombale. C'est un peu comme ça que je l'ai reçue, parce que la pièce est obscurcie à cet endroit-là. Et toute une série de textes, avec d'ailleurs sur les textes, je crois que c'est aussi pour ça que j'ai eu l'image, la pierre tombale, de ces petites photos qu'on ne trouve d'ailleurs, je crois, plus que dans les montagnes ou en Italie beaucoup, ces photos mortuaires qu'on met sur les tombes ou dans les annonces mortuaires, qui sont collées sur des textes et des textes qu'adresse Bernard Crétin à un certain nombre de gens qu'il connaît, en Valais bien sûr surtout, puisque il est originaire du Valais, s'est beaucoup penché sur justement les traditions de ces vallées. Là, il y a vraiment, je ne sais plus combien, 6, 7, 8 textes à lire, qui sont chaque fois assez denses, assez importants. Est-ce que l'ethnographie n'est pas plutôt une démarche qui s'appuie sur les objets? Puis tout à coup, là, on demande aux gens de se donner la peine de lire 9 textes d'un coup. C'est un sacré effort, effectivement.
Effectivement, mais je crois que, bon, une fois de plus, cette exposition, je pense qu'elle est un peu particulière, parce que c'est effectivement une confession. Et pour parler de cette pièce en particulier, je crois que c'est une des pièces centrales de l'exposition parce qu'elle est justement la pièce de la confession, je dirais. C'est la pièce où le conservateur, en fait, s'adresse à ses morts en leur parlant. Il leur dit à vous, vieux, vieille, et il leur raconte, en fait, tout son itinéraire. Ses doutes, ses efforts, son combat, et puis c'est la pièce dans laquelle il leur parle. C'est à la fois la pièce dans laquelle, en fait, il fait un peu son deuil. Effectivement, c'est pour ça que tu as eu ce sentiment. Ça veut dire que c'est réussi, à mon avis. Donc, c'est une pièce un peu intime où il raconte, en fait, toute sa problématique avec ses souvenirs, avec la mémoire, avec la mort. Et je crois que c'est un point central de l'exposition.
Donc, pour toi, dans ton mandat, il n'y avait pas cette contrainte d'utiliser absolument les objets. L'idée de pousser les visiteurs à devoir lire une série de textes avec, en l'occurrence, quasi pas d'objets, un seul, plus pour les photos, qu'on peut considérer comme des objets. Donc le rôle important de l'objet n'est pas forcément une contrainte qu'on t'avait donnée.
Non, là, effectivement, il y avait un certain propos à faire passer. Je pense que dans toutes les salles, ça a été un peu ça. C'est-à-dire que le propos, en fait, était très central. C'était plus, plus qu'un certain nombre d'objets à montrer et que ces objets-là, en fait, expriment une certaine théorie ou une chronologie ou je ne sais quoi. Là, c'était vraiment un propos qui doit être, en fait, soutenu par des objets. Donc, dans cette salle-là, la faux, par toute sa profondeur, en fait, suffisait. Elle prend une dimension gigantesque à elle seule. Et effectivement, l'idée, là, c'était de donner la parole à Bernard Crétin pour expliquer, en fait, plus en profondeur son propos.
Il y a une question que je brûle évidemment de te poser, mais elle est un peu sous-jacente dans ce que je disais déjà tout à l'heure. Est-ce que, alors que l'expo est déjà en place et est visitée, est-ce qu'il t'est arrivé de venir voir quelle était la réaction des gens dans l'exposition?
Oui, c'est sûr. C'est très intéressant de voir comment les gens réagissent, effectivement. Bon, plusieurs fois, je me suis promenée et puis j'écoute un peu les réflexions des gens ou je regarde la façon dont ils se promènent dans l'exposition. C'est très curieux, c'est très très différent selon les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent tellement vite... On a l'impression qu'ils ne voient rien, d'autres qui s'arrêtent très très longtemps, des réflexions très différentes, c'est très particulier, effectivement.
Mais pourquoi tu le fais? Parce que est-ce que tu as envie de voir si les gens ont compris les intentions que tu mettais à certaines dispositions, justement cette mise en scène? Ou est-ce que c'est pour avoir peut-être une lecture que tu n'avais pas imaginée? Qu'est-ce qui te pousse à venir voir la façon dont les gens réagissent?
Je crois que c'est l'aboutissement du travail. Je pense que effectivement, une fois que l'exposition est montée, on a toujours, c'est de nouveau, c'est une espèce de petit deuil à faire. Je pense que c'est important de continuer à la suivre, puis de voir effectivement si le travail est réussi. Je pense que si le travail est réussi, c'est effectivement que les gens s'y intéresse, c'est effectivement soi-même de faire le bilan pour voir si le travail a été compris ou bien si effectivement on est passé complètement à côté, que personne ne comprend rien, il faut quand même se remettre en question au minimum. Donc c'est vrai que pour moi c'est intéressant de voir ce qui se passe après. J'ai discuté avec certaines personnes pour voir ce qu'elles avaient compris. Bon, y a des gens qui effectivement ont compris quelque chose de complètement différent et des trucs. C'est vrai, j'ai entendu des réflexions incroyables en me disant par exemple, oh les restes, pourquoi t'as repris tous ces vieux objets? Je pensais que t'allais mettre, je sais pas, des carcasses de voitures ou des vieux plats de spaghettis ou c'est ça les restes aujourd'hui. Il y a des propos qui sont complètement différents. Il y a des gens qui, ouais, il y a des tas de réactions qui sont très 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 opposé.
Et t'as envie d'expliquer aux gens ton intention en fait quand t'entends leur mauvaise interprétation?
Ah oui, c'est sûr, je défends. Mais des moments, je me surprends même à défendre de façon très très virulente les propos de Bernard Créteil alors que c'est pas les miens. Quoi. Mais c'est fou à quel point on est tellement investi dans un travail, on n'arrive plus à prendre la distance, puis on a envie que tout le monde comprenne à fond alors que c'est vrai qu'il y a des tas de gens qui se promènent puis qui s'en fichent tout simplement, ça les intéresse pas. Ou... Par contre, c'est vrai que d'autres sont très très intéressés puis ont vraiment suivi de très près, ont vraiment envie de comprendre à fond puis sont passionnés.
Mais est-ce que n'importe quelle expo ou bien peut-être celle-ci en particulier, vu la difficulté qu'on a déjà énoncée, nécessiterait d'avoir toujours quelqu'un pour l'expliquer?
Non, mais moi, je pense que les expositions sont très différentes. Je pense qu'il y a certaines expositions qui sont très faciles à comprendre, puis elles existent, elles se font, puis je pense qu'il y en a d'autres qui sont plus difficiles, puis c'est bien qu'elles se fassent. Je pense pas que...
Je te demande ça parce que j'ai entendu quelqu'un dire « Mais cette expo sans Bernard Créteil veut rien dire. » Alors je trouve que c'est quand même un peu fort comme critique ça. Hein?
Ah oui, je trouve ça assez fort comme critique.
Dans le sens de dire, s'il n'est pas là pour dire ce qu'il a voulu dire, on ne comprend rien.
Non, je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'effectivement, on fait confiance aux gens qui s'y promènent, qu'on leur demande d'être un petit peu curieux. Et c'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, il faut arrêter de voir les expositions en consommateur premier degré et puis essayer un peu de se remuer pour essayer de comprendre ce que quelqu'un a envie de dire. Si on a envie, de pas réfléchir du tout, ben on va voir Jurassic Park et puis voilà quoi. Alors, moi je trouve que les expositions grand public où tout doit être simple, c'est comme la peinture grand public ou les livres grand public. Effectivement, c'est tout le débat de l'élite, savoir si on veut que tout le monde ait accès à. Moi, je trouve qu'il faut prendre plutôt la différence. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait des expositions différentes pour des publics différents. Et je pense que, qu'à Conche, certaines expositions étaient d'un autre ordre, peut-être plus accessibles à tout le monde. Celle-là, elle est différente, c'est un autre propos. Il y en aura d'autres qui seront différentes et peut-être plus simples à comprendre. Voilà.
Je crois que c'est éminemment intéressant, ça, bien sûr, parce que de faire que toutes les expos aient les mêmes formes, les mêmes façons d'accéder à un certain contenu, c'est bien évidemment très dommage. Et je crois que c'est ce qu'on aime aussi dans l'annexe de Conche, c'est qu'on est surpris d'une façon à l'autre, hein, d'une fois à l'autre. Alors, il y a peut-être une dernière question qui est liée, Anne, au dernier étage de l'exposition. C'est dans cette dernière étape, on a aussi quelque chose au milieu, de nouveau, qui prend beaucoup de place. C'est entre autres cette fameuse montagne que tu évoquais tout à l'heure. Et là, on est censé pénétrer dans le contraire ou dans le signifiant du n'importe quoi culturel. Je ne sais pas si nos auditrices vont y comprendre quelque chose. Je ne sais pas si quelconque spectateur comprend au premier abord ce que c'est que le n'importe quoi culturel. Mais enfin, visiblement, il y a une étape où chacun peut y mettre vraiment beaucoup de ce qu'il veut. D'ailleurs, les réactions des gens, j'en ai relevé quelques-unes, soit ils reconnaissent un objet qui a trait à eux, c'est assez fréquent cette réaction. Ah, mais moi j'en avais un chez moi comme ça. Ah non, mais moi ça me rappelle, chez moi on faisait comme ci, comme ça. Donc cette façon de rapporter à soi, et je crois que c'est très propre à l'ethnographie,
tout
à fait. Ça, hein, c'est un avantage. Et puis il y a des gens, il y a des gamins qui se promènent. Alors eux, c'est des objets qu'ils peuvent toucher, regarder les géraniums sous les jolies petites bulles de verre. Ça les intrigue beaucoup. Puis il y a des choses des fois que le hasard impose. Par exemple, je crois que dans le hall vous aviez fait, il y avait un papillon pour faire la pub pour un concert qui en soutien à Bruno Manzer, la fameuse personne qui s'oppose à la destruction des forêts en Indonésie. Et là, tout à coup, quand moi j'y étais sur ta montagne, Anne, il y avait deux ou trois de ces papiers qui étaient jaunes en plus, à un moment donné, qui étaient posés parmi les objets. Je me suis dit, mais ça fait partie de la décoration, c'est quelqu'un qui les a abandonnés là. Ça paraissait bizarre, donc je vois le hasard de l'abandon. Je crois que c'est les gamins qui jouaient avec, tu vois.
Je crois que c'est...
Oui, et puis en même temps, des gens qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça fait là? Puis ils ouvrent leur petit calepin, puis ils voient origine inconnue de tel objet. Alors, dans cette dernière étape, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Est-ce que toi, tu as dû te les poser aussi beaucoup? Comment tu as réuni toutes ces pièces qui sont de nouveau très hétéroclites, mais qui ont pourtant nous donnent l'impression que cette fois-ci, on a voulu les ordonner?
Je crois qu'effectivement, dans cette pièce-là, autant la mise en scène était effectivement mon idée, c'est-à-dire qu'il y a une reconstitution en fait, d'une montagne. Là, par contre, l'idée, c'était vraiment de faire une montagne. En fait, c'est une immense montagne en sagex qui en fait remplit, qui a 2 mètres de haut et 6 mètres de long, quoi, qui remplit entièrement la pièce et qui en fait est le socle en fait d'un certain nombre d'objets qui ont par contre été choisis là par Bernard Créta pour tout ce qu'ils avaient de comme signification précise concernant le mythe, justement, c'est-à-dire certains concernent la mort, d'autres la femme, d'autres... Donc là, le choix a été particulier.
Nous, on a un peu l'impression, enfin nous, moi, d'une œuvre conceptuelle, un petit peu comme ça. Ça, on pourrait s'imaginer retrouver une construction de celle-là au musée Rat, pour dire, par exemple, hein, à l'époque où on montrait beaucoup les œuvres conceptuelles. Est-ce que tu as l'impression, quand tu réalises une chose comme ça, que tu pourrais signer en bas, œuvre, Anne Grosset-Bacher?
Non, je ne crois pas. Je crois que ce qui est important de comprendre, c'est ce qui est, en fait, peut-être conceptuel, ou en tout cas, je dirais, contemporain. C'est en fait le langage qui est utilisé pour montrer les objets ou pour les mettre en scène. Mais je pense que dans aucune des pièces, et ni dans la dernière, je pense pas que ce soit un travail personnel d'artiste. En fait, c'est un langage qui est inspiré du monde contemporain, le monde de l'art contemporain. En fait... Pour chacune des pièces, il y a eu des inspirations de certains artistes. Au rez-de-chaussée, il y a par exemple Richard Long, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est une inspiration pour une mise en scène avec des cailloux.
Et un plancher jaune.
Oui, un plancher jaune. Au premier étage, il y a un clin d'œil à Boltanski, qui est quelqu'un que j'admire aussi. Je pense qu'il y a tout un langage qui est là, qui est le but, effectivement, c'est que ce langage contemporain soit présent et reconnaissable. Mais je pense qu'effectivement, ce n'est pas du tout une signature personnelle dans ce sens-là.
Dans le sens d'un travail artiste, d'un
voilà,
artiste.
Voilà, ouais. Absolument. Ouais.
Et tu disais que là-dessus, tu n'étais pas d'accord avec Bernard Créta. Là, vous ne voyez pas la même chose, cette façon de faire.
Non, c'est que Bernard Créta, pour m'énerver, me dit toujours « Ah, l'artiste ». Puis j'essaie de lui expliquer qu'en fait... Pour moi, ça, je me suis pas considérée comme artiste en faisant ce travail, tout simplement parce que moi, si j'ai un travail d'artiste, je défends mon propos personnel et que là, j'ai à mettre en scène le sien. Donc, à partir de ce moment-là, je trouve tout à fait faux de dire que c'est un travail d'artiste. L'artiste, il défend son propre travail et ça n'a pas été du tout mon cas.
Même si le tien était dans la grande liberté.
Alors, oui, le mien a été dans la liberté, la carte blanche que j'ai eue et j'ai pu travailler comme je voulais, mais j'ai toujours l'impression de rester un outil dans un scénario qui est celui du conservateur.
Un beau reste. J'espère pas pour toi. On n'en est pas encore là à être des outils devenus beaux restes. On est encore bien vivantes. En tout cas, Anne, merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces pistes pour comprendre d'une part l'expo, mais surtout en quoi consiste le travail de quelqu'un qui fait la mise en scène d'une exposition. Je crois qu'on verra peut-être un peu les expositions différemment à présent. Il y aura des lectures peut-être différentes. On pensera plus à la personne qui a mis en scène la prochaine fois qu'on ira voir une exposition. Alors peut-être rappelons à nos auditrices et auditeurs que l'exposition « La beauté du reste » à l'annexe de Conge du Musée d'ethnographie de Genève. Vous trouvez cette exposition « La beauté du reste » jusqu'au 4 avril. Vous avez encore le temps, c'est sûr, mais je pense que peut-être ça vaut la peine que vous y alliez une fois, puis qu'ensuite vous repériez un jour où Bernard Créta fait ses explications, ou bien vous repériez le jour où Anne Grossenbacher s'y balade pour avoir ses explications à elle. Et puis, nous vous souhaitons bonne visite, parce que ça en vaut la peine. En tout cas, les questions, même si elles sont peut-être compliquées, que nous pose Bernard Créta, valent la peine d'aller se les poser. Alors, pour aujourd'hui, en tout cas, sur notre propos principal, Remue et Ménage, c'est terminé. Je vous propose de finir notre émission en musique. D'abord, quelques notes de BBFC. Et puis, la semaine prochaine, je vous propose d'écouter des jeunes qu'on a voulu atteindre tout particulièrement, parce qu'ils sont ados, dans les écoles genevoises. Et on a voulu les atteindre à propos d'un spectacle de théâtre qui a été donné au théâtre Amstramgram, théâtre habituellement pour enfants, mais qui vise maintenant les ados, et en leur montrant la pièce qui s'intitule « La dispute de Marivaux » et qui évoque, sujet éminemment intéressant, qui de l'homme ou de la femme a trompé l'autre en premier. Alors voilà notre sujet pour la semaine prochaine. Bonsoir Anne, à tout
bientôt.
Bonsoir,
merci.
Je le répète, malheureusement, déjà, Remue Ménage, Ondes Femmes, Radio Zone 93.8, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez nous réentendre, bon ça dépend quand vous nous entendez bien évidemment, mais vous pouvez nous réentendre en rediffusion le mercredi soir à 23h et le jeudi matin à 11h sur 93.8, que vous pouvez toujours nous appeler en direct dans nos émissions pour participer à nos discussions qui sont très très souvent en direct comme aujourd'hui. En nous appelant, je vous donne le numéro de téléphone pour la prochaine fois au 50 40 51 41 023 depuis Genève voisine et 0033 depuis la Suisse romande voisine aussi. Et que la fin d'année arrive, on se fait des petits cadeaux parce qu'on a envie de se faire des cadeaux, même si on pourrait se les faire toute l'année durant. Mais peut-être c'est l'occasion d'y penser. Et notre chaîne de radio, elle a aussi besoin de petits cadeaux. Et entre autres, une carte d'auditrice ou d'auditeur que vous offriez à un ami ou une amie. Eh bien, ça ferait plaisir peut-être à votre ami, et ça nous ferait plaisir à nous, Radio Zone. Alors, c'est très facile. Vous nous appelez au 50 40 51 41. Peut-être c'est notre répondeur qui vous reçoit. Mais n'ayez pas peur. Laissez-lui votre nom, votre prénom, votre adresse. Et nous vous enverrons la dite carte d'auditrice ou auditeur pour le modeste prix de 30 francs suisses ou 100 francs français. À la semaine prochaine.
What a difference a day made. Brought the sun and the flowers where they used to be rain. My yesterdays were today I'm a part of you, dear. My lonely, lonely, lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above, they might be stormy. Without the one you love, well, it's heartbreaking misery. Without the one you love, you fool yourself and say, I'll forget it. Knowing all the time that it's not so.